Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma, au Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer sur Radio Okapi. Bienvenue.
Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, des dizaines de personnes victimes de pillages lors d'une incursion d'hommes armés la nuit de dimanche à Solandi, dans le village de Kiouma, en territoire des Massissi. Bilan, deux jeunes garçons arrêtés, argent et autres biens de valeur emportés par les assaillants. Quatre nouveaux cas de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Boko Kivulu, dans le territoire de Banzangungu, au Congo central. Les autorités sanitaires locales évoquent déjà deux décès et intensifient les actions de sensibilisation. L'invité de ce journal est le coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, Ibrahima Kone, tout en saluant la campagne de vaccination en cours dans le pays, appelle le gouvernement et ses partenaires à maintenir la surveillance pour prévenir toute résurgence du poliovirus. Merci encore une fois d'être avec nous. André Mongou et Alain Goya sur la technique. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nord Kivu, pour commencer, des dizaines d'habitants ont été victimes de pillages lors d'une incursion d'hommes armés survenue dans la nuit de dimanche à Solandi, dans le village de Kiouma, en groupement de Boabo, territoire de Massissi. Selon des sources administratives locales, l'attaque s'est produite entre 20h et 22h locales. Des hommes armés non autrement identifiés ont fait éruption maison par maison dans le quartier Katoy, au centre de Kiouma, sémant la panique au sein de la population. Des détails avec vous, Benjamin Moudoumbi.
Des machines à coudre, des habits, de l'argent ainsi que d'autres biens de valeur ont été emportés par les assaillants. Les sources de la notabilité locale les rapportent également l'enlèvement des deux jeunes garçons au cours de cette même incursion. Jusqu'à présent, leur destination reste inconnue. De son côté, la société civile locale de Boabo dresse un bilan alarmant de la situation sécuritaire. Elle affirme qu'au moins 15 civils ont été tués par balle en l'espace de mois lors des différentes attaques menées par des hommes armés dans plusieurs agglomérations dont cette entité coutumière. C'est notamment Ndété et Machaki, les derniers incidents ayant coûté la vie à 5 civils, parmi lesquels un enseignant, un nourrisson et sa mère est survenu vendredi dernier. La société civile dénonce ces violations répétées des droits humains et du droit international humanitaire dans cette zone sous occupation de la FCM-23, mais où opèrent également plusieurs autres groupes armés. Selon cette structure citoyenne, le groupe des Boabo, comme d'autres du secteur Osso-Banyungu se trouve depuis plusieurs mois au cœur d'un cycle de violences, de pillages et d'affrontements impliquant des groupes rebelles et des milices Wazalendo.
Et puis, la situation sécuritaire demeure volatile dans la province du Sud Kivu, en particulier dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sud-Sud Kivu, un drone qui survolait 5 lignes de front a été abattu par les FARDC au cours du week-end. Les zones concernées sont Kimete, Rugezi, Point Zéro, Mikenge et Kalingi. La même source précise que l'appareil aurait décollé du territoire rwandais. Cette information a été confirmée par l'administrateur local de Fizi, Sami Kalonji Badibanga. Je vous propose de l'écouter.
Le 25 avril 2026, les forces loyalistes FRDC ont abattu un deuxième drone de l'armée rwandaise en l'espace de 2 semaines. Cet appareil a été abattu au front au point zéro alors qu'il survolait la zone pour effectuer une mission de reconnaissance des positions de FRDC. Avant d'atteindre les cibles qui sont les positions de FRDC, ce drone a été neutralisé et rendu en poudre par le FRDC. Ça fait 2 semaines que ces engins sont lancés depuis le Rwanda et viennent causer des dégâts énormes sur la population locale, comme ça a été la semaine passée où plusieurs habitants du village Point Zéro ont été calcinés par ces drones. Hommes, femmes enceintes et les enfants en plein cours ont connu une pluie de bombes de ces drones. Bilan en provisoire, 40 personnes tuées. La situation sécuritaire dans l'entité reste relativement calme.
Quatre nouveaux cas de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Boko Kivulu, située dans le territoire de Banzangungu au Congo central. Selon les autorités sanitaires locales, deux décès ont déjà été rapportés entre le 24 et le 25 avril dernier au centre de santé de l'INERAM Voisy. Alerté, le docteur Lema Kosinus, médecin directeur de la zone de santé de Boko Kivulu, s'est rendu en urgence au village Temondima. Objectif, renforcer la prise en charge des malades et intensifier les actions de sensibilisation auprès de la population afin de contenir la propagation de la maladie. Il fait le point sur la situation sur place au micro d'Élise Kavira.
Nous sommes venus rapidement dans l'aire de santé pour riposter. On a compris que l'épidémie a quitté le village là où ça a commencé, maintenant a atteint d'autres villages. C'est comme ça que nous sommes ici en colo pour la riposte. Nous sommes venus leur déposer les intras et la division provinciale aussi est venue nous apporter aussi quelques intras. Voilà comment la situation évolue. Donc, de façon cumulée à ces jours, nous avons au total 32 cas avec 6 décès.
Dans la province du Maniema, les détenus de la prison centrale de Kindu lancent un appel aux autorités provinciales et aux personnes de bonne volonté pour l'entretien de leurs installations sanitaires. Ils dénoncent l'état dégradé des toilettes qui expose les prisonniers à des risques sanitaires. Ils invitent les autorités à agir rapidement afin d'éviter une aggravation de la situation. Ce plaidoyer a été formulé vendredi dernier à l'issue de la remise d'une assistance de la Fondation Matakate Luango Fomalu à cette maison carcérale. Cette aide était composée de sacs de manioc, de riz, de maïs, de haricots, de braises, de bois de chauffage, ainsi que des kits d'hygiène destinés aux femmes. Des détails avec Florence Kizalunga.
Selon plusieurs témoignages, la prison centrale de Kindu fait face à de nombreuses difficultés. L'assistance en vivres et en biens non alimentaires de la Fomalu a été vivement saluée par les détenus. Leur porte-parole, Mwamba Amsini, a déclaré.
C'est un réconfort pour nous. La prison est en train de traverser un moment très difficile. À part à manger, à la maman, le problème des WC, c'est un grand problème pour les prisonniers. Nous allons manger, mais par après, on va mettre ça où?
Prisonnières, bénéficiaires des kits d'hygiène corporelle, ont également exprimé leur gratitude. Madeleine Safi a témoigné. Aujourd'hui, nous avons reçu des casseroles et des seaux, ce qui était un sérieux problème pour nous. Nous dormons à même le sol et la maison sainte. Nous espérons que cette aide ne sera pas la dernière. La présidente de la Fomalu, Lissi Bampa, a promis de revenir régulièrement et de transmettre les doléances des détenus au gouverneur.
Moi, je suis une femme cultivatrice. J'ai jugé bon de partager ma récolte avec mes enfants, les prisonniers.
À ce jour, la prison centrale de Kindu héberge plus de 500 détenus, alors que sa capacité d'accueil est limitée à 150. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons à présent de ce fait insolite. Une femme âgée de 30 ans a accouché hier dimanche à bord d'un vol de la compagnie aérienne CAA reliant Lubumbashi à Kinshasa. Heureusement pour la mère, 4 médecins, dont un pédiatre, se trouvaient à bord et ont uni leurs efforts pour assurer la sécurité de la maman et du nouveau-né. Selon le docteur Emmanuel Lukombe, secrétaire général à la prévoyance sociale au ministère de la Santé et l'un des médecins présents, tout a commencé lorsque les hôtesses ont appelé au secours après avoir entendu les pleurs du bébé. Les médecins se sont alors approchés pour finaliser le processus d'accouchement. Ils précisent que la femme a accouché sans assistance préalable et sans crier directement sur son siège. Le point avec vous, Alain Hirung.
Selon le docteur Emmanuel Lukombe, la passagère était à son 5e accouchement. Pour ne pas attirer l'attention de l'équipage alors qu'elle était à terme, elle avait embarqué, vêtue d'une longue robe, portant une fillette de 3 ans dans les bras et tenant une autre de 5 ans par la main pour ce vol d'environ 2 heures. Elle a expulsé le bébé environ 45 minutes avant l'atterrissage vers 10h10 alors que des consignes de maintien en position assise venaient d'être données. Mais quelles précautions une femme enceinte doit-elle prendre avant de voyager en avion? Le docteur Anissé Kipassa apporte quelques éléments de réponse.
La plupart des compagnies exigent un certificat de non-contre-indication attestant que la patiente est apte à voyager à partir de la 28e semaine. Mais au cas où la femme doit voyager et qu'elle est apte à voyager, si elle présente de problèmes de circulation veineuse au niveau des jambes, cela est encore aggravé ou favorisé par le fait qu'elle va rester dans l'immobilité prolongée et cela peut entraîner des problèmes de thrombose veineuse ou de phlébite.
Le docteur Emmanuel Lukombe ajoute qu'en plein vol, le pilote avait demandé qu'une ambulance soit positionnée à l'arrivée, ce qui a été fait. Il précise enfin que l'accouchement s'est déroulé alors que l'avion survolait le territoire angolais.
Près de 300 cadres et militants du parti en vol ont manifesté ce lundi 27 avril à Kinshasa, précisément au rond-point magasin, pour s'opposer à l'accueil en RDC des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. La manifestation a toutefois été dispersée par des éléments de la garde républicaine. Selon le secrétaire général de Envol, deux cadres du parti ont été arrêtés à l'issue de cette intervention. Ce parti d'opposition exige leur libération immédiate et sans condition, dénonçant ce qu'il qualifie d'atteinte aux libertés publiques. On écoute Rodrigue Ramazani, secrétaire général d'Envol, joint par Joël Wetchi.
Nos cadres et militants ont décidé de descendre dans la rue de manière pacifique, notamment sur un point à Kitambo-Wagadin, pour dénoncer l'arrivée des Afghans ici dans notre pays. Face à cette action, le pouvoir de sécurité a préféré répondre par la violence, par la garde républicaine, qui ont arrêté et conduit à un lieu inconnu le cadre du parti. Il s'agit de Maître Daniel Nicolas Lenga, ancien secrétaire général adjoint du parti, ainsi que M. Merdi Mandengo, président sectionnaire d'Envol Kanluka. Nous ne savons pas à quelle destination ils sont. Nous condamnons cette arrestation arbitraire et détention illégale. Nous exigeons leur libération sans condition.
Par ailleurs, dans la province d'Issankourou, après la réfection du pont Lokenye sous la nationale numéro 7, l'office des routes d'Issankourou interpelle les autorités et la société civile afin d'assurer la protection de cet ouvrage stratégique régulièrement ciblé par des actes de vandalisme. Selon l'ingénieur Serge Mukamba, directeur de l'office des routes dans la province d'Issankourou, ces ponts constituent la principale voie d'accès au territoire de Lodja et sa détérioration mettrait en péril la circulation des personnes, des biens et des services dans cette province. Ce responsable provincial invite les autorités politico-administratives, les forces de sécurité ainsi que la société civile à renforcer la surveillance autour de cet ouvrage. L'ingénieur Serge Mukamba, directeur provincial de l'office des routes au Sankourou, a été joint par Esther Dalafina.
Je tiens à informer l'opinion que des individus inciviques avaient retiré les pivots du pont Lokenye et l'office des routes avait pris l'option de rétablir les ponts sur la RN7 au PKD de Lodja et appelle les autorités compétentes à veiller sur cet ouvrage qui est le cadeau du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui a doté les Sankouroa en général et celle de Lodja en particulier.
Au Nord Kivu, la saison culturelle baie s'annonce sombre pour les agriculteurs du territoire des Rutshuru. À Kiwanja, dans les bassins de Kaunga, les cultures de maïs et des haricots sont actuellement ravagées par une invasion des chenilles légionnaires. À ce fléau s'ajoute une sécheresse persistante qui compromet déjà les récoltes. Entre insectes ravageurs et manque de pluie, les paysans redoutent désormais une période de famine. Le point sur cette situation avec Rosalie Zawadi.
À Kiwanja, l'espoir d'une bonne récolte s'est envolé pour de nombreux agriculteurs. Aujourd'hui, ils craignent même de ne plus avoir assez de semences pour relancer la prochaine saison culturelle.
Ces insectes nous font souffrir. Ils ravagent beaucoup nos plantes, surtout les maïs et les haricots. Trouver les semences serait difficile et le prix du maïs va hausser à la suite de la sécheresse et ces insectes.
Pour Marc Banoura, agronome indépendant à Kiwanja, la solution passe d'abord par la prévention. Il exhorte les agriculteurs à respecter rigoureusement les calendriers culturels pour mettre toutes les chances de leur côté face aux aléas du climat.
Ceci arrive lorsque vous cultivez votre champ en retard. Vous trouverez que les champs attaqués sont des champs qui n'ont pas respecté le calendrier agricole. Leurs plantes ont rencontré la sécheresse et ces papillons se déplacent vite pendant la sécheresse que pendant la saison de pluie. Aux habitants qui ont de faibles moyens, ils peuvent faire la lutte mécanique. Faites le ramassage des chenilles dans les champs, puis vous allumez le feu et jetez ces chenilles dedans. Ou soit vous les ramassez et vous les tuez.
Ces mauvais rendements agricoles font peser une menace réelle sur la sécurité alimentaire de la région. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre burkinabé de la guerre, Célestin Simporé, a présenté en conseil des ministres vendredi dernier un projet de loi pour la constitution d'une réserve militaire. Selon le ministre, le texte prévoit le recrutement et la formation de 100 000 réservistes d'ici la fin de l'année 2026 dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes. Le gouvernement burkinabé avait déjà créé les volontaires pour la défense de la patrie, VDP.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Ibrahima Koné salue la campagne de vaccination en cours dans le pays. Il appelle le gouvernement et ses partenaires à maintenir la surveillance pour prévenir toute résurgence du poliovirus. Ibrahima Koné s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, docteur Ibrahima Koné.
Bonjour.
Quelle a été la particularité de la campagne de vaccination contre la polio cette année dans la province du Haut-Katanga?
Ce qui est important actuellement, donc un aspect particulier de cette campagne, c'était de mettre l'accent sur la recherche de ces communautés qui ne sont en général pas atteintes par la vaccination. Que ce soit la vaccination supplémentaire, comme les campagnes que l'on conduit, ou la vaccination systématique, ou la dite vaccination de routine. La deuxième, c'est de nous assurer également que, à l'occasion de cette campagne, nous passions des messages. Vous savez que un des volets importants, des piliers importants de l'éradication de la polio, c'est ce qu'on appelle la surveillance des paralysies flasques aiguës. Et donc, à l'occasion de ces campagnes, étant donné que nous avons l'opportunité de visiter tous les ménages, nous passons le message qui est celui de « Est-ce qu'il y a des cas de paralysie ?» Alors nous avons des messages très simples à l'endroit des communautés qui ne sont pas du tout sophistiqués, de manière à être bien compris. Et ça nous permet, nous, de collecter un grand nombre d'échantillons de sel et les analyser au laboratoire pour voir si nous avons une circulation virale ou pas. Nous assurer également que, au cours de ces campagnes, nous contribuons à augmenter la couverture de vaccination dans le cadre de la routine, le système régulier. Donc vous voyez que cette campagne a plusieurs effets sur plusieurs dimensions de la vaccination.
Vous avez visé combien d'enfants et combien ont été atteints tout au long de cette campagne?
La cible était autour de 2 300 000 enfants pour le Haut-Katanga et nous avons dépassé la cible. Nous avons une couverture vaccinale approximée à 113%. Il faut comprendre l'écosystème de cette province du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga est une province minière, est une province relativement riche. Elle a un écosystème économique qui attire de la population. En raison des questions sécuritaires dans la partie nord-est du pays, nous sommes soumis à d'importants flux de population qui arrivent et qui transitent par le Tanganyika. Si bien que, d'une campagne à l'autre, nous avons une augmentation assez significative de la population à vacciner.
Quelles ont été les grandes difficultés dans cette partie du pays?
Oui, les difficultés, c'est ce que nous gérons au quotidien. Bon, nous avons connu quelques retards au niveau de la distribution des intrants, mais rien de significatif. C'est toujours un défi de transporter d'importantes quantités de matériel de Kinshasa à n'importe quelle région du pays, parce que vous le savez, l'essentiel du transport est aérien. Et l'offre de transport aérien ici est très limitée, si bien que il y a des goulots d'étranglement au niveau de la distribution des intrants, d'accord? Avec ça, on a quelques problèmes au niveau des refus, on a quelques poches de population, effectivement, qui sont réticentes à la vaccination, mais nous avons quand même pas mal d'expérience en la matière. Nos collègues de l'UNICEF sont de grands connaisseurs de cette problématique. Ils ont développé une expertise à travers le monde, parce que pour les questions de refus, c'est l'UNICEF qui a le leadership. Elle a une expérience, cette organisation, avérée. Si bien que la quasi-totalité des refus auxquels nous avons eu à faire face à l'occasion de cette campagne ont été résolus.
Si on vous demandait d'adresser un petit message à la communauté et aux autorités, en marge de cette campagne contre la polio, que diriez-vous?
Le Haut-Katanga a une équipe technique d'abord de très haut niveau. Le MCA est très compétent. L'assistance technique a une relation vraiment privilégiée. Le message, c'est de les féliciter et de continuer à poursuivre les efforts en vue de l'éradication. Parce que les efforts ne sont pas consentis seulement par les partenaires, les assistants techniques. Les efforts sont consentis en réalité par le pays, par les provinces. Ce sont eux qu'il faut féliciter. Le deuxième message, c'est que le combat n'est pas fini. Il faut qu'on s'assure que tous les enfants vont être vaccinés, de manière à ce qu'on crée une barrière qui empêche le virus de se transmettre de l'homme à l'homme. Donc, pour les communautés, le message est simple. Nous n'avons pas fini. Vous allez nous revoir à nouveau. Ne vous inquiétez pas, le vaccin est sûr. Pas de discussion là-dessus. C'est un vaccin sûr qui a été prouvé, qui a été utilisé dans le monde entier. Alors, le message, c'est faites-nous confiance. Faites confiance à vos autorités. Et nous sommes en voie de finir le travail.
Docteur Ibrahima Koné, nous vous disons merci.
C'était notre invité, le coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Ibrahima Koné s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Fin de ce journal qui a été préparé par Élisée Tikota, Jude Mister Bilanda et Alain Irung. Alain Goy et André Mongou ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.